Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous avons lu dans l'Épître les mots suivants. Soyez des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple du Christ qui nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une oblation et un sacrifice d'agréable odeur. Soyez les imitateurs de Dieu, à l'exemple du Christ. Pour qui veut être chrétien, vrai chrétien, le Christ est en effet un modèle, le modèle. Et lui-même a d'ailleurs donné sa propre personne et son humilité en exemple. Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. Et précisément, le carême nous invite à contempler notre Seigneur, notre grand modèle, pour l'imiter un peu mieux. C'est ça le but du carême. Et pour nous y aider, nous lirons dans 15 jours, lors de le jour des rameaux, l'épître qui nous redira ces choses. Cette épître passe souvent un petit peu inaperçue parce que la grande semaine sainte commence, elle est très chargée, la liturgie est très riche. Donc peut-être aujourd'hui, regardons si vous voulez le texte de cette épître qui est tout à fait parallèle aux mots que nous venons de lire et que nous avons entendus dans l'épître d'aujourd'hui. L'épître du dimanche des rameaux commence par ces mots. « Ayez en vous les mêmes sentiments qui furent dans le Christ Jésus. » Les sentiments qui sont dans le Christ Jésus. Cette épître contient un hymne bref, mais qui place devant nos yeux de façon extrêmement vivante le modèle incomparable de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Cet hymne contient 6 petites strophes, dont chacune marque une étape du mystère du Christ. Les 3 premières décrivent le mouvement de descente. Notre Seigneur est descendu du ciel pour nous sauver, donc ce sont ses humiliations. Et puis les 3 dernières insiste sur l'exaltation extraordinaire du Fils de Dieu. Et on peut dire qu'en si peu de mots, il n'y a sans doute pas dans tout le Nouveau Testament de texte plus beau pour dire quel exemple le Christ est pour nous. Alors regardons rapidement ce texte sans rentrer trop dans le détail et en insistant surtout sur les 3 premières strophes, puisque ce sont elles qu'il nous faut surtout méditer pendant notre carême. Voici ce qu'elles disent. Lui, il s'agit de notre Seigneur, subsistant en forme de Dieu, on lit encore dans d'autres traductions, bien qu'il fût dans la condition de Dieu, ne regarda pas comme un avantage à garder son égalité avec Dieu, mais il se dépouilla lui-même, il s'anéantit lui-même, prenant la forme d'esclave et devenant semblable aux hommes. Et reconnu par son aspect comme un homme, il s'humilia lui-même en se faisant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement exalté et l'a gratifié du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et dans les enfers, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Vous voyez que ces quelques mots sont une puissante illustration, par l'exemple de notre Seigneur lui-même, de sa propre parole. Tout homme qui s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Alors regardons les 3 premières strophes. La première insiste sur la préexistence divine du Christ. Il est le Verbe de Dieu. La deuxième sur son incarnation, l'humiliation qu'il a consenti en s'incarnant, en prenant une nature humaine. Et puis la troisième insiste sur sa mort. Non seulement il s'est incarné, mais il est devenu le crucifié. La première strophe dit donc, « Lui, subsistant en forme de Dieu, ne regarda pas comme un avantage à garder son égalité avec Dieu. » Pour comprendre ces mots, les premiers mots, bien qu'il fût dans la condition de Dieu, il faut tout de suite se reporter au dernier mot. Son égalité avec Dieu. Le Christ est l'égal de Dieu, il est le Verbe de Dieu. Eh bien, cette égalité, il n'y a pas renoncé, évidemment, il ne peut pas notre Seigneur ne peut pas cesser d'être Dieu. Il est le Fils de Dieu. Mais il a renoncé à l'égalité du traitement, aux honneurs divins auxquels il a un droit strict. De toute éternité, il subsistait en forme de Dieu, comme dit le texte, c'est-à-dire qu'il avait les attributs essentiels qui manifestent au dehors la nature divine, et en se faisant homme, il aurait pu conserver, même dans son existence humaine, cette condition glorieuse. C'est ce qu'il fait d'ailleurs l'espace d'un instant au moment de la transfiguration. Pour conforter ses apôtres, il leur apparaît tel qu'il aurait pu être et tel qu'il aurait dû être, même d'une certaine manière, pendant toute sa vie terrestre, avec la gloire de sa divinité visible. Eh bien non, le Fils de Dieu n'a pas agi comme nous aurions sans doute agi. Nous avons coutume d'agir en défendant avec acharnement ce qui est à nous, nos droits, nos prérogatives. Eh bien, notre Seigneur, au contraire, a accepté d'abandonner sa condition glorieuse. Tout ce qui, dans sa personnalité divine, le manifestait extérieurement comme Dieu. Il n'a pas regardé cette condition comme un avantage. C'est exactement ce que dit le texte. Le mot est difficile à traduire. C'est un gain, en quelque sorte, que pour lui d'être ainsi reconnu comme fils de Dieu. Eh bien, on peut dire que ce gain, il y a renoncé par amour pour nous. Et en tout cela, la conduite du Christ s'oppose à celle d'Adam et d'Ève. C'est en effet pour réparer le péché d'Adam et d'Ève que notre Seigneur s'est incarné. Adam et Ève, qui étaient de simples créatures, ont voulu être pareils à Dieu. C'était leur ambition. Ils ont écouté les suggestions du diable et ont cru qu'il pourrait subsister éternellement à l'image de Dieu. Eh bien, le Christ a fait tout le contraire d'Adam et d'Ève. Il n'a pas voulu revendiquer sur la terre les honneurs strictement divins auxquels pourtant il avait strictement droit. Alors comprenons bien, pour éviter toute ambiguïté, notre verset exprime d'abord la préexistence du Christ, le Verbe éternel de Dieu, engendré du Père de toute éternité, est devenu homme dans le temps. Ce texte de saint Paul ne signifie pas que le Christ a renoncé à sa divinité. C'est important de le souligner, car il y a une trentaine d'années, un peu plus, une traduction officielle qui est lue dans toutes les églises de cet épître du dimanche des Rameaux, qui laissait entendre que notre Seigneur n'était plus le Fils de Dieu, qu'il avait renoncé à sa divinité. Ce qui est un scandale extraordinaire. Ce texte, vous le savez sans doute, vous vous souvenez, au moins pour les plus anciens, la revue Itinéraire avait fait toute une campagne pour s'insurger contre cette traduction honteuse dans le lectionnaire officiel. Notre Seigneur est le Dieu, il est le Fils de Dieu, il le proclame aux Juifs. Avant qu'Abraham fût, je suis. Ce « je suis », pris absolument, signifie bien qu'il est Dieu. Le fait d'être d'une manière absolue, c'est la prérogative de Dieu. Et pourtant, il se dépouilla lui-même. C'est la deuxième strophe. Il se dépouilla lui-même, prenant forme d'esclave et devenant semblable aux hommes. Littéralement, le texte dit même, il s'est vidé de lui-même en échangeant cette condition de Dieu qui était la sienne pour la condition de l'esclave. Il n'a pas renoncé, évidemment, encore une fois, à la nature divine, il ne le pouvait pas, mais à la gloire qu'il aurait dû normalement, rejaillir sur son humanité, cette gloire, oui, celle-là, il y a renoncé. Il n'a pas quitté le trône de son Père, évidemment. Quand on dit que notre Seigneur est descendu du ciel, il ne faut pas l'entendre d'un mouvement local. Ça veut dire qu'il s'est anéanti, comme dit saint Thomas, non pas en perdant sa plénitude, mais en prenant notre petitesse. Et du coup, il est apparu sur cette terre, effectivement, comme étant un homme. Et cet anéantissement consiste donc en ce qu'il n'a pas voulu avoir, en tant qu'homme, la condition glorieuse qui lui revenait par droit connaturel, comme fils de Dieu. Saint Paul le dit équivalemment en beaucoup d'autres endroits, on ne peut pas tous les citer, mais c'est une vérité qu'il est important de méditer. par exemple, dans l'Épître aux Hébreux, saint Paul fait dire à notre Seigneur, au moment de l'incarnation, il s'adresse à son Père, « Vous n'avez voulu ni sacrifice ni oblation, mais vous m'avez façonné un corps, vous n'avez agréé ni holocauste ni sacrifice pour les péchés. Alors j'ai dit, voici, je viens pour faire au Dieu votre volonté. » Notre Seigneur a accepté cette humiliation pour notre salut, parce que les sacrifices et les holocaustes de l'Ancien Testament n'étaient pas capables de sauver les âmes, de sauver les hommes. Ou encore, saint Paul dit aussi, « Le chef de notre foi, Jésus, au lieu de la joie qui lui était proposée, au ciel, il était parfaitement heureux, il était avec Dieu, en Dieu, endura une croix dont il méprisa l'infamie. Il a accepté de prendre une nature humaine et de mourir sur la croix par amour pour nous. » Un autre texte de saint Paul, toujours dans la deuxième épître aux Corinthiens, il s'adresse aux fidèles. « Vous connaissez la libéralité de notre Seigneur Jésus-Christ. Étant riche, il s'est fait pauvre pour nous enrichir par sa pauvreté. Il était riche, fils de Dieu, avec toutes les prérogatives qui y sont attachées, toute la gloire qui y est attachée. Eh bien, il s'est fait pauvre, il s'est fait homme pour nous enrichir par sa pauvreté, par cet acte qu'il a posé en assumant notre nature humaine. » Alors soulignons bien encore une fois que ce dépouillement du Fils de Dieu n'implique pas qu'il ait renoncé à la nature divine. Ce à quoi il a renoncé, c'est à la manifestation de sa majesté et de sa gloire aux yeux des hommes. Et de fait, dès lors qu'il est apparu sur terre, alors qu'il aurait pu vivre en Seigneur et s'assurer par une humanité resplendissante et puissante, l'adoration, la soumission de tous les hommes, eh bien non, en réalité, il est venu dans la forme d'un esclave. Il a caché son être véritable. Il est entré dans l'incognito, si on peut dire. Il faut penser que c'est le Fils de Dieu, c'est notre Créateur. Et c'est cela qui est extraordinaire. Et de fait, les hommes qui l'ont vu sur cette terre ne pouvaient voir en lui, ne pouvaient discerner en lui rien d'autre qu'un homme mortel. Pour voir le Fils de Dieu, fallait les yeux de la foi. Mais sans les yeux de la foi, on ne pouvait pas distinguer en notre Seigneur autre chose qu'un homme ordinaire. Alors saint Paul continue, c'est la troisième strophe. « Reconnu par son aspect comme un homme, il s'humilia lui-même en se faisant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. » La strophe d'avant, en quelque sorte, décrivait l'incarnation du Fils de Dieu, c'est-à-dire cet enfouissement presque violent, si on peut dire, de la gloire divine dans l'humanité de Jésus, incarnation qui témoignait déjà d'une humilité et d'un désintéressement inouï devant laquelle toutes les revendications de prérogatives ou de privilèges de la part des hommes doit nous paraître bien mesquine, bien misérable. Et dans la strophe présente, saint Paul montre que notre Seigneur est allé encore plus loin. Au dépouillement, il a ajouté l'abaissement volontaire. Il a choisi le chemin de l'obéissance. Lui, le Créateur, le Fils de Dieu, il s'est fait obéissant et obéissant jusqu'à la mort. Au lieu de dominer, de faire valoir aux dépens d'autrui toutes ses prérogatives et ça aurait été parfaitement justifié, il a voulu se soumettre pour nous apprendre l'obéissance et pour nous apprendre à emprunter nous aussi les mêmes voies. Rappelons bien que tout cela, c'est un exemple que notre Seigneur nous donne. Alors, en mesurant toutes ces choses, en lisant toutes ces choses, nous devons comprendre combien les sacrifices que Dieu nous demande, au fond, sont bien petits. Et que cette obéissance ait été dure pour le Fils de Dieu incarné, c'est toujours saint Paul qui nous le dit dans l'Épître aux Hébreux. Il ne faudrait pas croire, parce que notre Seigneur était le Fils de Dieu, que l'obéissance, du coup, lui était facile et que ça ne lui